Bonsoir. Demain matin, la vaste aula Paul VI, habituellement destinée aux milliers de fidèles se pressant aux audiences papales, accueillera le synode sur la synodalité lancé en octobre 2021 par le pape François. Pendant près d'un mois, 364 participants à l'assemblée, plus le pape, parmi lesquels pour la première fois des religieux et 96 laïcs, dont 54 femmes, qui auront le droit de vote, un droit de vote équivalent à celui des évêques, travailleront ensemble autour de vastes tables, alternant travail en groupe et session plénière. Synode sur la synodalité. Derrière ce nom un peu abscon se cache la grande réforme du pontificat pour imaginer un futur différent pour l'Église. Ça, c'est une citation du pape. François juge en effet qu'elle doit adapter sa manière d'annoncer son message sans en changer le fond. Les participants partiront de l'instrument de travail, synthèse de la consultation des fidèles aux plans nationaux et continentaux, dont l'étendue des thèmes impressionne, allant des modes de décision dans l'Église à la formation des prêtres, en passant par la place des femmes, l'accueil des migrants, la pastorale pour les personnes homosexuelles, les traditions culturelles ou le changement climatique. Certains parlent ou rêvent d'un Vatican III, d'autres estiment que tout au moins il s'agirait d'un approfondissement de Vatican II, qui redéfinirait les relations entre clercs et laïcs, notamment de la manière de prendre des décisions dans l'Église, et d'autres craignent que la montagne accouche, craignent ou souhaitent que la montagne accouche d'une souris, un éloge du dialogue entre catholiques sur des sujets clivants. Pour ce premier mardi d'éthique publique de l'année, nous avons choisi de nous concentrer sur la question de fond, quelle doit être la réponse à la question du gouvernement et de l'Église de l'autorité dans l'exercice de l'autorité dans l'Église. Pour cela, nous avons la chance d'avoir deux interlocuteurs qui vont nous aider à y voir plus clair. Honneur aux dames, Christine Pedotti, vous avez 63 ans, vous êtes directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Témoignage chrétien, ou je ne sais pas si on disait encore Témoignage chrétien ou TC, depuis 10 ans. Auparavant, vous avez été éditrice religieuse durant une vingtaine d'années. Vous avez notamment dirigé des ouvrages de vulgarisation de la foi catholique à travers de nombreuses encyclopédies Théo. Entre 2005 et 2012, vous avez beaucoup travaillé sur les questions de gouvernement dans l'Église, dans des romans à succès, sous le pseudonyme de Pietro de Paoli, dans lequel vous aviez notamment fait démissionner Benoît XVI. Vous n'avez levé le mystère de votre identité qu'en 2012. Auparavant, vous étiez fait connaître en créant en 2008, avec Anne Soupa, le comité de la Jupe, pour protester contre les discriminations envers les femmes dans l'Église. Puis en 2009, la Conférence catholique des baptisés francophones, c'est comme ça qu'on dit. Pierre Delord Laval, vous avez 57 ans, vous êtes prêtre du diocèse de Versailles depuis 29 ans. Depuis le 1er septembre 2022 et le départ de l'évêque auxiliaire Bruno Valentin comme évêque coadjuteur du diocèse de Carcassonne et Narbonne, vous êtes l'un des deux vicaires généraux du diocèse, à ne pas confondre avec les vicaires épiscopaux. Je vais vous expliquer. Si j'ai bien compris, le ou les vicaires généraux sont les adjoints directs de l'évêque, à plein temps, ou pas toujours, à plein temps. Enfin, vous êtes à plein temps. Tandis que les vicaires épiscopaux, excusez-moi, c'est vraiment, les vicaires épiscopaux sont en charge d'une subdivision géographique ou thématique d'un diocèse. Voilà, donc vous avez été vicaire épiscopal entre 2005 et 2014 dans le diocèse de Versailles. Par ailleurs, vous êtes prêtre modérateur du comité national du diaconat. Les diacres sont des membres du clergé. Vous êtes donc un spécialiste de la gouvernance de l'Église, pour reprendre un terme à la mode. Nous avons aussi Marie Ekman, vous êtes sœur de Saint-Joseph. Vous êtes en cinquième année de cycle intégré. Les sœurs de Saint-Joseph sont des sœurs ignatiennes et c'est l'un des premiers ordres ignatiens féminins, c'est ça? On peut dire ça. Pierre Devial, vous êtes jésuite scolastique en troisième année de cycle intégré au Centre Sèvres. Je commencerai avec vous, Christine. Qu'est-ce que vous attendez du synode pour ce qui concerne le gouvernement de l'Église? Prenez votre micro, il y a, faut appuyer sur le bouton.
Alors, vous me posez une question qui n'est pas exactement celle qui inaugurait notre propos, puisque la question était originellement, est-ce que le gouvernement de l'Église doit être réservé aux clercs, qui était vraiment un coin posé dans l'arbre. voilà. Me demander ce que j'attends du synode. Il se trouve que j'ai travaillé abondamment sur le Concile de Vatican II et il me semble que ce que le pape essaie de faire sans déployer l'énorme machinerie, l'énorme ingénierie qu'est un concile, c'est de faire quelque chose qui est je veux dire, autant que possible ce poids, cette capacité de changer les choses. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ce que je crois, en revanche, c'est qu'il était urgent de changer quelque chose dans la gouvernance de l'Église. Et à la question initiale sur est-ce que le gouvernement de l'Église devait être réservé aux clercs, je me suis dit, ben voilà, puisqu'il faut que je prenne la parole assez vite pour exposer les choses, je dirais que pour moi, ça soulève trois questions immédiates. C'est est-ce que c'est une question dogmatique ou doctrinale? Est-ce que c'est une question fonctionnelle? Ou est-ce qu'il y a une question d'acceptabilité? Alors, l'organisation du pouvoir, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et c'est le Concile de Vatican II qui le rappelle, confie l'exercice de l'autorité au pasteur sacré, dans un mode hiérarchique, qui est l'ordre sacré. Donc, la question qu'on a à se poser, c'est que ce modèle hiérarchique, est-ce qu'il tombe du ciel? Est-ce qu'il est voulu par Dieu? Est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est comme ça. Ça, c'est une première question. Ensuite, il y a la question fonctionnelle. C'est-à-dire, est-ce que l'organisation du pouvoir telle que nous la connaissons, est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que ça remplit la mission première de l'Église, qui est d'annoncer l'Évangile? C'est quand même ça le but du jeu. Et la troisième question, c'est celle de l'acceptabilité. C'est-à-dire, l'organisation du pouvoir telle qu'on la connaît aujourd'hui dans l'Église, est-ce qu'elle est acceptable au sens où est-ce qu'elle est conforme aux normes considérées comme bonnes et désirables dans nos sociétés? Voilà comment j'organise les trois choses. Et puis, en plus, je réponds. Non seulement je pose des questions, mais je réponds. Alors, la première, c'est que du point de vue doctrinal, le modèle hiérarchique qu'on connaît, non, il ne tombe pas du ciel. Il est très antique et à ce titre, il est très respectable. Je rappelle juste pour mémoire que le mot respectable, de respect, ça veut dire y regarder à deux fois. Donc, on y regarde à deux fois avant d'y toucher. Mais, de fait, il est issu des balbutiements organisationnels des premières communautés. Des balbutiements qui durent quand même un peu plus de deux siècles. C'est quand même pas rien du tout. De fait, j'affirme, dans cette faculté de théologie, que Jésus n'a pas fondé l'Église telle que nous la connaissons. Il se trouve que dans les grandes choses encyclopédiques auxquelles j'ai participé à un truc chez Albin Michel qui s'appelait Jésus l'encyclopédie, qui a une suite qui s'appelait Après Jésus, qui parcourait l'histoire des premières communautés jusqu'en 250. Pourquoi est-ce qu'on avait choisi cette date? C'est parce qu'en fait, il faut à peu près aller jusqu'à 250 pour qu'on voit se dessiner la forme de l'Église telle qu'on la connaît, c'est-à-dire des prêtres, des diacres, des prêtres, un évêque et la primauté romaine. Hein. C'est à peu près Cyrille de Carthage, on est à peu près en 250. Donc on regarde avec respect notre héritage, mais on se souvient qu'il n'est pas sacré, mais qu'il est bien contingent d'une histoire. À partir du moment où on peut discuter cette question doctrinale, on peut se poser d'autres questions. Est-ce que l'organisation est fonctionnelle? Là, je pourrais avoir beaucoup d'objections sur la fonctionnalité. Je vais en citer deux. La première, qui est très récente, c'est que finalement, on voit bien que le caractère systémique des abus, aussi bien sexuels que spirituels, est intimement lié à la forme de l'exercice du pouvoir sacré. On exerce le pouvoir au nom de Dieu et sans contre-pouvoir. C'est ça qui a amené la situation des abus. Donc c'est quand même une très grande question. Hein. Toutes les victimes ont dit « le curé, c'est comme si c'était Dieu ». C'est bien ça qui s'est passé. L'autre objection, qui n'est pas des moindres, c'est la difficulté de recrutement. L'Église est une organisation, on pourrait presque en parler dans des termes entrepreneuriaux. L'Église est une organisation qui n'arrive plus à recruter ses cadres. Donc le modèle du pasteur sacré, comme le dit le Concile de Vatican II, intéresse assez peu. Et en mettant un peu les pieds dans le plat, je vais dire qu'au point qu'on peut même s'inquiéter ou s'interroger sur les personnalités qui s'engageraient sur un tel profil de poste. Moi, je veux être pasteur sacré. Moi, j'ai des doutes. Enfin bon, bref. Troisième question, celle de l'acceptabilité. Alors, ça, c'est un problème, c'est que un modèle d'exercice du pouvoir qui exclut les femmes par principe, pour la seule raison qu'elles sont femmes, qui s'exonère de toute régulation des pouvoirs telle que nos démocraties les connaissent. Je ne dis pas que ça marche bien dans nos démocraties, mais en tous les cas, on ne cesse de faire des efforts pour que ça marche. Parce qu'on sait qu'un pouvoir sans régulation est un pouvoir qui devient fou. Donc, sans femmes, sans régulation des pouvoirs, tant au niveau local qu'au niveau le plus haut, est-ce que c'est acceptable aujourd'hui ? Et, question plus importante, est-ce que ça ne disqualifie pas totalement la parole de l'Église ? Parce que finalement, c'est quand même ça qui pose une véritable question, au sens où finalement, l'Église catholique serait, dans le paysage contemporain, un des derniers endroits qui assume froidement une discrimination de genre, sans hésiter le moins du monde. Alors, ma conclusion, en première instance, c'est qu'au fond, rien n'empêche l'Église catholique de changer radicalement de modèle de gouvernance. Parce que le seul critère, c'est est-ce qu'elle fait le boulot ? Est-ce qu'elle fait résonner l'Évangile ? Et sa puissance d'annonce est-elle indemne aujourd'hui ? Cette réflexion m'amène à poser une question que je trouve extrêmement intéressante et même assez excitante. C'est qu'est-ce qui reste de catholique quand il y a plus modèle de gouvernance ? C'est un point que le pape François a soulevé en disant, en disant aux Allemands en particulier, si vous voulez une église réformée, il y en a une très bien en Allemagne, c'est pas la peine d'en faire une deuxième. Et je trouve que ça vaut le coup de se demander qu'est-ce que c'est que être catholique, qu'est-ce que c'est que cette culture, que je dirais presque qu'est-ce que c'est que le style de vie d'un chrétien catholique si finalement on retire ce paysage qui est celui que, à la suite de Vatican II, en reprenant le terme, j'ai appelé le pasteur sacré. Voilà. Est-ce que j'ai été assez vite ?
Merci. Donc, après les pieds dans le plat de Christine, dans le bénitier. Pierre ?
Donc à l'approche du synode des évêques, on a entendu beaucoup de gens appeler de leurs vœux des évolutions dans l'Église quant à sa pratique du gouvernement ou de la gouvernance ou du management, selon les cas. Et cette diversité des termes choisis suppose par elle-même que les références en la matière viennent non seulement de la culture ecclésiale, mais aussi de la culture politique ou de celle de l'entreprise. Et c'est peut-être d'ailleurs cette diversité qui est source de débats et de conflits, et le fait que ces cultures ne soient pas ou pas encore partagées. Bien sûr, la question est ici posée au Centre Sèvres en termes de synodalité, de participation et de discernement, dans le cadre d'une culture ecclésiale donc, mais nous savons qu'elle se pose plus largement dans le cadre d'une société qui revendique certaines exigences, en fait, de processus démocratique et de parité homme-femme. Et autant le dire, cette difficulté à concilier les cultures ne se présente pas simplement devant nous, elle se présente en nous, parce que nous participons tous les uns et les autres, à la fois d'une culture ecclésiale et à la fois d'une culture commune. Un autre élément de contexte qu'il faut nommer aujourd'hui, pour commencer, est celui de la crise des abus qui a pu disqualifier ou empêcher, pour reprendre un mot de Mgr Windsor dans un petit texte récent, le gouvernement actuel de l'Église du fait de ses responsabilités. Il a pu disqualifier des personnes, mais aussi disqualifier la pratique habituelle du gouvernement ou même sa théorie pour prétendre construire à neuf, quelquefois à partir de rien. Le gouvernement de l'Église doit-il être réservé au clergé ou bien doit-il être autrement partagé? Comment associer tous les baptisés aux orientations de l'Église selon ce principe du droit romain reçu dans l'Église primitive qui dit « ce qui concerne tous doit être discuté et approuvé par tous ». Je vais aborder cette question pour mon introduction à partir de trois expériences de participation renouvelée des baptisés à la vie de l'Église dans mon diocèse depuis 30 ans que je suis prêtre, avant d'en tirer quelques convictions et quelques questions, je le reconnais, un peu anarchiques. Première expérience, c'est l'expérience et l'introduction des équipes d'animation paroissiale. Je suis prêtre diocésain depuis presque 30 ans et je suis entré dans le ministère, comme les confrères qui me précédaient, avec des convictions ecclésiologiques fortes, autorisées par Vatican II. La définition missionnaire de l'Église, l'appel universel à la sainteté, l'égale dignité de tous les baptisés, la conviction qu'à tout homme est offerte, par des chemins que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Assez vite, à partir de 1995, s'est présentée une première évolution institutionnelle qui n'existait pas, la création d'équipes de 3 ou 4 laïcs, nommés pour 3 ans pour contribuer au quotidien de la vie pastorale d'une paroisse ou de son pasteur et de son pasteur. Cette évolution qui aujourd'hui va de soi et qui est
associée. Ah, c'est les équipes d'animation pastorale, c'est ça?
Oui. C'est ça. C'est comme ça qu'on les a appelées ensuite. Donc cette évolution qui va de soi aujourd'hui et qui est presque généralisée dans le diocèse était encouragée à l'époque par l'évêque, Mgr Jean-Charles Thomas, mais elle inquiétait les prêtres. Ces équipes ont reçu successivement 3 définitions en peu de temps qui illustrent les questions qui se posaient à leur sujet. On a parlé d'équipes pastorales, puis d'équipes qui participaient à la charge pastorale, puis d'équipes qui participaient à l'exercice de la charge pastorale. Ça n'a l'air de rien, mais à y regarder de près, c'est plein de sous-entendus. On comprend ici que ce qui faisait difficulté, c'était la singularité du ministère du curé. Non, les équipes ne remplaçaient pas le curé. Ils gardaient une responsabilité pastorale propre. Il y avait donc ici une volonté résolue d'associer davantage les laïcs, mais aussi de continuer à faire jouer le ministère presbytéral comme tel. Jean-Jacques Boyer, en tant que canoniste à l'époque, avait eu cette formule utile pour penser la responsabilité des ministres dans l'Église, disant « Quand le droit canonique institue des groupes, il institue des conseils, pas des directoires. » Au-delà de ces débats génériques, l'invention des équipes qu'on a fini par appeler non plus équipe pastorale mais équipe d'animation paroissiale, pour adopter une terminologie commune en France, constitue une évolution significative de l'association des laïcs au gouvernement de l'Église, en plus des conseils pastoraux qui étaient déjà établis. Donc première expérience de cette association renouvelée, les équipes d'animation paroissiale. Deuxième expérience, le synode diocésain de Versailles en 2011. C'est la deuxième expérience significative en matière d'association renouvelée de tous les baptisés à la vie de l'Église. Et c'était une première, en tout cas, selon le cadre du droit de 1983.
Une première dans le diocèse ou en France?
Une première dans le diocèse, pas une première en France. On n'était pas pionniers. C'était une découverte pour nous, en particulier le fait que le synode est une célébration et pas simplement une assemblée en débat. Autrement dit, il y a une dimension confessante dans cet exercice, confessante et liturgique. Et je suis témoin du fait que, même si on a eu dans le diocèse des oppositions au sujet de la méthode, En fait, le document final a structuré la vie pastorale du diocèse pendant les 10 années qui ont suivi. Le synode définissait 16 projets, dont la moitié ont été réalisés et dont tel ou tel reste vivant jusqu'à aujourd'hui. Troisième expérience plus récente et qui nous intéresse plus immédiatement ce soir, c'est la consultation des chrétiens du diocèse en vue du synode romain sur la synodalité. Je l'ai vécu pour ma part comme curé, que j'étais à l'époque. Elle a concerné dans le diocèse environ 5000 personnes, c'est-à-dire 10% des pratiquants du diocèse. Hebdomadaire. Du résumé de la synthèse diocésaine qui a été lue au cours de la messe chrismale il y a 1 an et demi, ressortait la satisfaction de l'exercice, mais surtout l'insatisfaction quant à la collaboration prêtre-laïque du fait du cléricalisme, d'une autorité trop verticale, d'un manque d'équilibre entre hommes et femmes dans le partage des responsabilités, d'une opacité du conseil pastoral. Certains ont proposé l'introduction d'une assemblée paroissiale annuelle comme élément de solution. Pour ma part, comme curé, je me permets 2 commentaires. Je souligne que les contributeurs de ces soirées synodales étaient beaucoup plus âgés que la moyenne des pratiquants, à part les membres du conseil pastoral qui l'organisaient. Et pour ma part, je constate un hiatus évident entre le sentiment qui s'est exprimé à ce moment-là de participer davantage et mon expérience de curé de ne pas trouver les contributeurs dont j'avais besoin quand je les sollicitais. Au-delà de ces 3 exemples, locaux sans doute, je voudrais formuler quelques convictions et interrogations qu'on peut extrapoler à l'échelle plus large de l'Église. D'abord, il me semble que le cadre actuel de l'ecclésiologie et du droit offre des possibilités auxquelles on ne recourt pas faute de conviction ou de savoir-faire. Il faut citer ici le synode diocésain. Pourquoi n'est-ce pas une pratique régulière, en particulier au regard de la pratique des églises protestantes, réformées et luthériennes. Ou bien encore le conseil diocésain de pastoral à l'échelle d'un diocèse. Deuxièmement, quel est le nom qu'on donnerait à des laïcs à qui on confierait des responsabilités de gouvernement? Si on en met certains à conduire des communautés, par exemple, ne faudra-t-il pas les appeler prêtres? Puisque les prêtres sont ceux qui président des communautés. Est-ce que le prêtre préside l'Eucharistie parce qu'il préside la communauté? Ou est-ce qu'il préside la communauté parce qu'il préside l'Eucharistie? Cette question est pleine de conséquences. Va-t-on dissocier responsabilité de gouvernement et responsabilité sacramentelle? Parce que j'entends souvent la piste suivante. On va laisser aux prêtres les sacrements et on va prendre comme laïc ce qu'on peut faire, l'évangélisation et le gouvernement. Or, les 3 dimensions qui constituent le ministère sont indissociables. Quand on a été curé de paroisse, on sait que la présidence de l'Eucharistie est un acte de gouvernement. Et on sait que la présidence du conseil pastoral est un acte liturgique. Je reconnais que c'est un peu étrange ce que je viens de dire, sauf que vous voyez bien que la manière dont un pasteur va prêcher, va conduire une assemblée, va être fidèle à ce rendez-vous du dimanche, va énormément influencer la manière dont il gouverne, et inversement, un curé de paroisse ne peut pas présider un conseil pastoral comme s'il était une autorité toute puissante. Il est obligé de mettre en œuvre la même sollicitude et la même réserve, même s'il ne le fait pas toujours, qu'il met en œuvre à l'intérieur de la célébration liturgique. Enfin, je me demande si les difficultés à associer les laïcs ne sont pas liées à la grande taille des communautés, c'est vrai que je parle un peu ici pour mon diocèse, au fait que la dimension fraternelle des paroisses, de connaissances mutuelles, est difficile à développer. Et puis aussi, dernière question, je me demande si la difficulté à associer les laïcs, les baptisés, pardon, à la vie de l'Église n'est pas liée à la difficulté de savoir ce que c'est que d'annoncer aujourd'hui l'Évangile dans des sociétés occidentales qui ont été largement évangélisées. Au-delà des recettes qui nous viennent des églises évangéliques et dont on entend souvent, même en paroisse, quelle serait la solution à tout.
Et si vous voulez réagir ? Pas tout de suite. Je vais donc passer la parole à Marie et à Pierre.
Peut-être que j'avais une question pour rebondir sur votre dernière intervention. Et puis, notre sujet, c'est est-ce que le gouvernement doit être réservé au clergé ? Et en regardant un peu ce qui existait déjà dans l'Église comme modalité de gouvernement, je suis tombée sur une disposition du code de droit canon qui prévoit que une décision peut être prise dans un certain nombre de cas après concertation. Quelqu'un en charge d'une autorité en mettant la condition que la personne en charge de l'autorité ait consulté un certain nombre de personnes. Il me semble que c'est peut-être en partie ce qui est à chercher à se mettre en œuvre à travers les équipes d'animation pastorale ou paroissiale dont vous parliez. Et je me demandais si la démarche de synodalité engagée par le pape François pouvait pas permettre de revisiter ces lieux-là, non plus peut-être comme des lieux de vis-à-vis entre le pasteur et la communauté, mais plutôt comme des lieux d'élaboration conjointe qui permettraient ensuite au pasteur d'être, enfin ou à la personne en charge de l'autorité, d'être dans une situation de réception d'une décision élaborée ensemble, et donc en lui laissant à la fois pleine liberté pour la prendre et l'assumer, et en même temps en étant pas seul, mais dans un exercice de co-construction.
Il me semble que dans l'exercice des conseils de toutes sortes, la dimension de vis-à-vis que le pasteur, l'évêque à l'échelle d'un diocèse ou le curé à l'échelle d'une paroisse est une dimension qui joue ou qui devrait jouer de manière plus symbolique que réelle. Parce qu'en réalité, la discussion a lieu à parité. Et dans mon expérience de curé ou dans mon expérience de vicaire épiscopal en pensant à l'évêque, je peux compter sur les doigts d'une main les cas où le pasteur s'est imposé de manière unilatérale et en rupture avec la discussion qui avait précédé. Dans la plupart des cas, on procède peut-être à une synthèse finale, mais de type plutôt consensuel, et c'est assez peu fréquent. Et assez signifiant d'ailleurs quand ça se produit que le pasteur se situe en vis-à-vis en disant eh ben moi je pense plutôt autre chose. C'est quand même assez rare. Je me souviens d'une fois où ça s'est passé précisément pour le synode de 2011, on avait discuté, mais on avait discuté dans un sens et dans un autre, parce que quand il y a une discussion elle n'est pas forcément unanime. Et un beau jour l'évêque Éric Aumônier prend la parole longuement pour donner sa décision et ça n'en finissait pas. Oui, alors que, comme vous savez, on a parlé dans un sens et dans un autre. Ça n'en finissait pas. Et puis, au point que, au moment où il termine sa phrase, je ne sais pas ce qu'il va dire. Et il dit, donc on va le faire. Mais c'est rare. Voilà. Et en l'occurrence, j'étais plutôt d'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas une révérence particulière des... Est-ce qu'il n'y a pas les laïcs ne s'auto-restreignent pas parce que du fait de la figure du prêtre en se disant il ne faut pas le contrarier ?
Non,
est-ce que ça a évolué dans le temps en plus ces dernières années ? Est-ce que vous sentez que les gens se sentent plus libres d'exprimer leur point de vue ?
J'ai pas l'impression qu'il y ait que les gens se limitent dans leurs propos. J'ai plutôt l'impression d'une assez grande liberté. Alors après, ça dépend peut-être un peu des gens. Ça dépend aussi de notre posture à nous-mêmes. Par exemple, est-ce que dans un conseil, on prend une position d'animateur ou pas? Ça fait partie des questions de savoir-faire qui me paraissent assez utiles pour progresser dans la prise commune de décision. c'est aussi de ne pas prendre le leadership de la réunion.
Est-ce que les prêtres, je continue sur la question, vous avez un sentiment d'avoir été bien formé à ça? À la façon de mener une réunion, une discussion, comment exercer le leadership de manière à ce que chacun puisse exprimer son point de vue et qu'on puisse avancer ensemble?
Bah, moi, il me semble que la formation dans ce domaine-là, elle est très empirique. C'est-à-dire, on ne commence pas d'abord comme curé, on commence avec des curés qui nous donnent un certain modèle et dont on s'inspire par imitation ou par opposition.
Pierre.
C'est bon. Je reprends ce que vous disiez sur le lien entre la présidence de l'Eucharistie et la présidence de l'équipe d'animation paroissiale. Oui, c'est ça, EAP. Voilà, dans la constitution apostolique Sacramentum Ordinis, Pie XII écrit que ce qui fait l'autorité de l'évêque ou du prêtre, c'est le sacrement de l'ordre, et qu'il y a à la fois un pouvoir spirituel et une grâce qui lui est conférée pour remplir ses fonctions. Lumen Gentium ajoute que c'est aussi la communion avec le chef du collège épiscopal et le collège lui-même qui fonde cette autorité. Bon, on voit que les événements récents, si on prend la crise liée aux multiples agressions sexuelles qui ont été soit parfois perpétrées ou couvertes par des évêques notamment, peut-être aussi, si on prend des exemples moins dur, des difficultés aussi peut-être à gérer pour les évêques, les prêtres de leur diocèse. Par exemple, il y aurait de multiples exemples à donner, mais en termes de ressources humaines, d'attention fournie aux prêtres. Voilà, en tout cas, beaucoup d'exemples qui montrent que dans l'exercice de ces fonctions, il y a une béance, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ma question serait, au fond, qu'est-ce qui fonde l'autorité de l'évêque ou des clercs, des religieux aussi peut-être? Est-ce que c'est finalement le sacrement? Est-ce que c'est la mission reçue? Est-ce que c'est la compétence? Et du coup, qu'est-ce que l'autorité recouvre? Est-ce que justement c'est la célébration des sacrements, l'enseignement de la doctrine, ou est-ce qu'il y a des éléments qui doivent être davantage délégués à des laïcs qui sont formés sur, par exemple, en ressources humaines pour la gestion d'un diocèse, de l'accompagnement des prêtres.
Qui veut répondre?
Je vais raconter une petite histoire. Ça se passe au Concile. Un des experts du Concile, qui s'appelle Hans Küng, qui à l'époque est jeune. Par parenthèse, d'ailleurs, il est proche de Joseph Ratzinger à l'époque. Ils sont redoutés par les autorités romaines, par les autorités curiales du Vatican, qui les appellent tous les deux les sans-culottes du Concile, c'est pour vous dire. Et Hans Küng se promenait avec un petit papier. Vous savez, le Concile, ça a eu lieu dans Saint-Pierre de Rome. Et en fait, on circulait beaucoup dans l'enceinte conciliaire. Il y avait même des cafés où on allait vraiment prendre un café, manger un biscuit pendant les séances. Et Hans Küng se promenait avec des petits papiers écrits dans les langues principales du concile, donc en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien. Avec cette simple question, il a posé aux évêques, c'est à qui Paul a-t-il laissé la communauté de Corinthe. À qui Paul a-t-il laissé la communauté de Corinthe? Je rappelle pour mémoire que la première lettre aux Corinthiens, on a Paul qui est assez colère sur la façon dont ça se passe chez les Corinthiens. Il trouve qu'ils célèbrent mal, que c'est le foutoir, etc., etc. Mais, je veux dire, il est parti, il a laissé la communauté à on ne sait pas qui. Et si Hans Küng posait cette question aux évêques, c'était justement puisqu'on parle de présider l'Eucharistie ou de gouverner, c'est précisément parce qu'il voulait leur faire mesurer que cette question-là, elle ne s'était pas résolue de façon immédiate et qu'on pouvait encore réfléchir aujourd'hui à la façon dont on la, dont on la traitait. Je crois pour ma part que, effectivement, dans la présidence de l'Eucharistie, il y a quelque chose comme un acte de gouvernement. Ça, je suis complètement d'accord. Et je suis bien d'accord que le gouvernement est lié à cet acte de communion, effectivement. Et, mais la seule question, c'est à qui on confie le job ? Est-ce qu'on le confie, je veux dire, à ce que le Concile de Vatican II appelle les pasteurs sacrés, c'est-à-dire auxquels on doit toute révérence, toute religieuse obéissance. Parce que la souche de la catastrophe autour des abus, c'est quand même bien cette religieuse obéissance. Je veux dire qu'au fond, c'est pas seulement le fait que... J'ai aussi dire une métaphore, c'est que il ne s'agit pas de vouloir faire fonctionner l'Église avec plus de règles de management, que ça ronronne bien, comme si en fait l'Église devait être une superbe Rolls-Royce avec un moteur qui ronronne et des chromes étincelants, et tout ça va bien. Et on veut dire qu'on s'en fiche, on s'en fiche complètement. Ça pourrait être un vieil autocar brinque-ballant. Hein, qui est toujours prêt à verser, je pense, à ceux qui se promènent sur les routes des pays en développement. Mais on n'y refuse jamais un passager. Dût-on le mettre sur le toit ? Et moi, je voudrais que l'Église, ce soit cet autocar cahotant dans lequel on peut mettre autant de gens qu'on veut. Et après, qu'il conduit ? Voilà, celui qui est capable de ne pas le mettre dans le ravin.
Quand je parlais de présidence de l'Eucharistie et présidence de la communauté, je ne parlais pas de l'équipe d'animation paroissiale, je parle vraiment de la présidence de l'Assemblée et spécialement de l'Assemblée dominicale. Pour ma part, il me semble que ça va dans la ligne de l'ecclésiologie que j'ai reçue. Je ne me suis jamais pensé en termes de pouvoir sacré, jamais, ou même de pouvoir spirituel. Je me suis pensé dans l'exercice du ministère, justement dans l'exercice, dans le double exercice de la présidence de l'Eucharistie et de la présidence de la communauté, mais je me suis jamais pensé, il me semble que c'est désuet, de penser en termes de pouvoir sacré, quand bien même ça apparaît encore dans les textes. On est porté par une sorte de dynamisme de la pratique de l'Église et où l'évêque, ce qui n'était pas le cas jusqu'à Vatican II, a une grande place. C'est-à-dire jusqu'à Vatican II, et au-delà, parce qu'il a fallu du temps pour qu'on le réalise, l'évêque est une sorte de préfet. Moi, j'exerce mon ministère depuis le premier jour et jusqu'à aujourd'hui en référence à quelqu'un d'autre que moi. Et au fond, la succession apostolique, c'est ça qui fonde le ministère ordonné, n'est pas loin dans mon exercice habituel dans l'exercice habituel de ma mission, non seulement aujourd'hui où je suis proche de l'évêque, mais dès le début quand j'étais vicaire puis curé de paroisse.
Autre question ou vous voulez qu'on passe à la salle ? Vas-y Marie.
Moi j'avais une autre question peut-être pour élargir un peu le regard. Pour l'instant, on a parlé de l'échelle paroissiale, on a parlé de l'échelle diocésaine, mais l'évêque, c'est aussi et peut-être d'abord celui qui participe à la communion des églises par la participation au collège des évêques. Et du coup, peut-être j'avais une première question sur en fait cette collégialité qui permet l'unité de l'Église. Quelle piste concrète vous auriez pour l'envisager comme un moyen qui favorise le travail de l'esprit ? Voilà. Comment la vivre dans un cadre spécial où il y en a un qui a une place différente des autres ? Voilà. Quelle que soit l'échelle à laquelle on pense. Et puis peut-être aussi, elle a été mise en place ces dernières, depuis le concile, plutôt peut-être d'une manière un peu descendante de Rome vers les églises locales. Et comment peut-être penser quelque chose de l'ordre de la réciprocité dans les échanges entre les églises.
Moi, j'ai le sentiment que c'est une question que les questions de collégialité sont peu discutées à l'échelle, enfin ne sont discutées qu'à l'échelle des évêques et pas tellement à la nôtre, c'est-à-dire des prêtres ou d'un diocèse. Moi, j'ai le sentiment que je suis plutôt d'accord avec l'idée qu'il faudrait que l'Église soit plus décentralisée. J'ai le sentiment que le fait qu'elle le soit dispense les évêques de prendre la parole de manière plus forte. Ça, c'est vrai. Et j'ai le sentiment aussi que, en fait, l'exercice de la collégialité au niveau de la conférence épiscopale dépend énormément des personnalités. Il y a des gens qui jouent volontiers le jeu, il y a des gens qui jouent moins volontiers le jeu. Et puis, il y a des gens qui ont besoin, plutôt les petits diocèses, il y a des gens qui n'ont pas besoin, plutôt les gros diocèses. Et que ça, c'est un exercice qui est pas mal remis aux personnalités en question, aux personnalités des évêques.
Alors, je vais continuer à raconter des histoires. Hein. C'est des histoires qui datent d'aujourd'hui, parce qu'il se trouve que le synode intéresse beaucoup les journalistes de la presse, radio, télé. Tout d'un coup, tout le monde se rend compte qu'il y a un synode. Donc, on m'appelle en me disant « Madame Pedotti, voudriez bien nous dire un petit mot sur le synode, etc. » Donc j'ai commencé à le faire, je continue demain matin, y compris à l'aube d'ailleurs. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que la question qu'on me pose toujours, c'est « Bon, mais alors ce synode, il va prendre des décisions ?» Ah ben non, il ne va pas prendre des décisions, parce que voyez-vous, il est consultatif. Donc, je veux dire, on va écouter tout le monde, puis au bout du compte, c'est quand même le pape qui va décider. Ben oui. Eh ben, ils ont quand même un peu de mal à comprendre pourquoi on fait tout ce tintouin, toute cette machinerie, pour qu'au bout du compte, mais ils vont décider quoi ? Ben, je ne sais pas, de toute façon, ils décideront rien. Ils vont faire un texte à la fin, ils vont voter des propositions. Donc là, c'est un côté démocratique. Alors, c'est vrai que c'est une révolution, il va y avoir des laïcs, il va y avoir des femmes, enfin, ça a de la gueule quand même. Et puis, on va attendre que le pape décide. Quand je dis qu'il y a un problème d'acceptabilité, je l'entends chez mes interlocuteurs. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre ? On ne comprend rien. On va faire le synode, puis à la fin, il n'y aura rien. Ils vont voter sur des trucs et ils n'ont pas l'autorité. C'est quoi ce truc ?
Est-ce que ça doit être une démocratie, l'Église ? L'Église doit-elle être une démocratie ?
Ça, c'est une question que j'ai déjà moult fois traitée. Et honnêtement, je vois aucune objection à ce qu'elle le soit. Je ne vois aucune objection à mettre en place des processus démocratiques dans l'Église. De surcroît, quand des gens m'objectent, on ne va quand même pas décider des dogmes avec un processus démocratique, je leur réponds, attendez, c'est exactement ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait dans un concile ? Sinon, et dans le premier, Nicée, sur quand même un dogme qui avait... Ça valait le coup quand même de voter. On a voté, on a mis aux voix la nature du Christ. Enfin, on l'a mis aux voix. Donc, en fait, on est déjà dans une forme de démocratie sur les sujets les plus importants. C'est quand même un peu bête qu'on ne le soit pas sur la question des chaudières et des heures d'ouverture de l'Église.
Est-ce que le résultat à Nicée aurait pu être le contraire ?
On sait qu'au brigandage d'Éphèse, il y a eu un souci. Dans un concile ultérieur, qui s'appelle le brigandage d'Éphèse, il y a eu des achats de voix, des trucs, etc. Puis finalement, on a décidé qu'on oubliait ce concile-là, que ce ne serait pas un vrai concile et qu'on recommencerait. Voilà, ben, les processus démocratiques, ils ne sont pas impeccables. Hein. Churchill a toujours raison. Hein, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres.
Par rapport à cette question de la démocratie, l'expérience synodale révèle aussi, pour l'avoir pratiquée un petit peu, un certain nombre de difficultés. Par exemple, le fait que ça peut tourner un petit peu, excusez-moi l'expression, dans une ambiance un peu café du commerce, où il n'y a pas forcément d'expertise théologique, ni d'ailleurs forcément spirituelle, psychologique, philosophique, même au centre Sèvres parfois, où voilà, on peut voir des avis qui ne sont pas forcément étayés. Donc, ça pose effectivement un problème de légitimité. Donc, ma question serait du coup, quelle structure pour permettre d'avoir cette expertise? Comment est-ce qu'on peut enrichir quand même un discernement avec des avis théologiques, philosophiques, psychologiques étayés? Et puis, comment des fidèles aussi non experts peuvent bénéficier dans leur propre discernement de cette expertise, sachant que c'est pas uniquement au niveau des théologiens, mais par exemple dans cette maison, on a François Audinet, Étienne Grieux, pour ne citer qu'eux, qui travaillent sur une théologie à l'écoute des plus pauvres. C'est peut-être aussi à ce niveau-là que l'expertise se joue.
Mais c'est une question formidablement intéressante. C'est pour ça qu'il faut l'ouvrir. Moi, on m'a souvent posé la question, est-ce qu'il faut faire Vatican III ? L'objection que j'y fais, c'est que on a fait Vatican II en 1962, on a montré à la face du monde un prodigieux défilé de 2500 évêques, tous des hommes, 400 experts, tous des hommes, plus des... Larsen s'invite, plus des invités qui étaient issus d'autres confessions religieuses, qui étaient tous des hommes, mais par parenthèse, tous les informateurs religieux, les journalistes, etc., qui étaient à Rome, étaient aussi tous des hommes. Donc, en soi, ce n'était pas choquant. Imaginons un concile aujourd'hui. On a 5000 évêques qui entrent, tous des hommes. Alors, dans les théologiens, on a une petite chance d'avoir des théologiennes, quand même. Et puis, je veux dire, l'image que ça donnerait au monde entier sur l'Église serait mais purement catastrophique. Purement catastrophique. C'est sûrement d'ailleurs pour ça que le pape dans le synode, là, invite entre autres des femmes. Mais dès l'instant où se dit, ça serait totalement catastrophique d'avoir 5000 évêques hommes en falbala et dentelle qui entre dans Saint-Pierre de Rome, se pose la question de savoir avec quels critères, comment est-ce que on augmente la représentativité, comment est-ce qu'on choisit des gens, comment est-ce qu'on choisit des baptisés, est-ce qu'on fait une parité? Alors si on fait la parité évêque laïque, ah oui, mais alors après comment on fait la parité homme-femme? Et puis comment est-ce qu'on fait la parité entre les continents? Et puis etc., etc. Donc tout ça, ça pose des questions absolument fascinantes et intéressantes. Moi, ce qui me désole, c'est qu'on ne se les pose pas. Je pense que ça ferait du bien à l'Église, ça nous ferait du bien de nous poser ces questions. Qui est légitime pour parler? Est-ce qu'il y a une légitimité du sachant? Le comité de la jupe est né de la phrase d'André 23 sur la place des... Il y a vraiment quelqu'un qui m'en veut. Hein. Sur la place des femmes, où on peut lui poser la question, il a dit « Le plus difficile, c'est d'avoir des femmes qui soient formées. » Première nouvelle, c'est ça, hein, la phrase entière. C'est quand même stupéfiant. Là, à mon avis, à ce moment-là, il se rend compte qu'il dit un truc. Il faut qu'il s'en tire. Alors, il essaie d'une blague. Et la blague, derrière, c'est « Il ne suffit pas d'avoir une jupe. Encore faut-il avoir quelque chose dans la tête. » Bon, là, évidemment, il se prend les pieds dans la soutane et c'est terrible. Mais comme quoi la question de « il faut des gens formés », c'est une vraie et bonne question. Je veux dire, dans l'Église aujourd'hui, il n'y a pas de grade de sachant ou de sachante. Les théologiens et les théologiennes n'ont pas de place, n'ont pas de légitimité, puisque le gouvernement de l'Église est strictement réservé au clergé sur le critère de l'ordination et pas sur le critère de la formation. Même si on essaie qu'ils soient formés, je suis d'accord. Hein. Mais en tous les cas, il n'y a pas une autre voie, ce qu'il pourrait y avoir. Mais il n'y en a pas. Moi, je dis qu'il faut poser ces questions. Il faut se poser des questions de représentativité dans l'Église. Il faut qu'elle se pose cette question-là. Parce que ce sont des questions fécondes.
Merci. On va peut-être passer la parole à la salle. Au fond.
La soirée sur la gouvernance de l'Église, mais il y a quand même tout un aspect du synode qui porte sur autre chose. C'est la redécouverte par les chrétiens de leur vocation de baptiser et de leur responsabilité dans la mission. C'est-à-dire les chrétiens dans le monde. C'est pas tourner vers le fonctionnement interne de l'Église, c'est vers leur rôle dans le monde. Et je pense que cette question doit être traitée d'abord avant de savoir comment s'organisent les structures de l'Église. En tout cas, elles ne doivent pas être oubliées.
Oui, et c'est le sens d'un paragraphe de Lumen Gentium dont le numéro m'échappe, mais qui dit précisément cela, c'est que la tâche des laïcs, c'est la mission dans le monde. Avant tout. C'est pas d'abord l'investissement dans l'organisation de l'Église.
Oui, enfin, si quelqu'un va défendre le rôle des baptisés, là je réponds présente. Hein, ça fait 15 ans que je fais que ça. Donc, effectivement, je rappelle d'ailleurs toujours que les baptisés, ça présente l'avantage d'être extrêmement inclusif. Parce qu'il y a un baptisé pape, des baptisés évêques, des baptisés prêtres, des baptisés diacres. Donc c'est très intéressant la notion de baptisé. Il y a évidemment des baptisés hommes, des baptisés femmes, des baptisés religieux, religieuses. Donc voilà, ça permet de faire tout ça. Mais moi je crois effectivement, je suis bien d'accord qu'il y a une question d'annonce, une question, c'est-à-dire... Moi, la question qui m'habite aujourd'hui, c'est pas tant de savoir si on va réformer la gouvernance de l'Église. C'est pour ça ma métaphore de la Rolls-Royce et de l'autocar sert à ça. Je veux dire, c'est pas utile de rendre le bazar beau et rutilant. La question que nous avons à nous poser, c'est est-ce que le christianisme a quelque chose à dire aux hommes et aux femmes de ce temps ? Qui est la question que Vatican II pose dans Gaudium et Spes, et essaie de répondre, et on n'a pas fini d'y répondre. Et on a aujourd'hui des enjeux qui sont colossaux, que le pape soulève hein, sur les équilibres nord-sud, sur l'écologie, sur le destin de l'humanité et de la planète. Bon sang, bonsoir. Mais c'est ça qui est urgent, je suis bien d'accord avec vous.
Autre question, oui. Oui, merci beaucoup. Christine Pedotti, vous avez souligné dans votre précédente intervention, c'est-à-dire pas à l'instant, mais juste avant, vous parliez de l'enjeu de la formation, la place qu'on accorde ou pas aux théologiens et aux théologiennes. Par ailleurs, vous avez souligné l'un et l'autre que le gouvernement de l'Église jusqu'à nouvel ordre est confié à des pasteurs, non pas à des intellectuels, non pas d'abord à des intellectuels ou des théologiens, mais à des pasteurs qui sont sur le terrain. Et Pierre Delors-Laval a bien insisté sur le fait que gouverner la communauté ou présider à la communauté, c'était un acte liturgique. Moi, j'étais sensible à ce point. Donc, ma question, c'est s'il faut réformer cet ordre qui confie le gouvernement à des pasteurs, est-ce que c'est en ouvrant cette charge pastorale, notamment à des femmes, ou alors en déplaçant complètement l'axe et en faisant du gouvernement de l'Église un gouvernement d'intellectuels, de théologiens, de gens diplômés, plutôt qu'à des gens qui ont des mains dans le cambouis et qui réfléchissent à partir de l'expérience très concrète de devoir gérer un troupeau de beubris plus ou moins réfractaires, plus ou moins disruptives.
honnêtement, confier l'Église à des énarques ecclésiaux ne me semble pas un bon plan, hein, avec tout le respect que j'ai pour les énarques. Surtout de façon exclusive. Mais il reste que la fonction de théologien ou de théologienne pourrait avoir sa place. C'est pour ça que je dis qu'il faut réfléchir aux questions de représentativité. Elles sont extrêmement importantes. Maintenant, pour répondre à votre question sur le fond, moi j'ai des positions relativement radicales, même si je prétends rester catholique. C'est que je pense que le ministère des prêtres, il a aujourd'hui, il est appuyé sur 4 critères, me semble-t-il. C'est exclusivement des hommes, toujours célibataires, à plein temps et à pleine vie. Et moi, je suis pour qu'on fasse bouger les 4 curseurs.
Attendez le micro.
Non, je voudrais simplement insister, il y a un non-dit là, on faisait comme ce qui est dans le sens commun, dans l'immédiat et même dans beaucoup de milieux d'église, comme si le synode s'achevait en 2024. Or, ce qui se passe actuellement, c'est pour ça que je suis profondément séduit par cet appel du pape François, c'est, comme il l'a dit lui-même à plusieurs reprises, c'est un processus qui prendra toute une génération. Toute une génération. Alors le problème ne se pose pas. C'est vrai, c'est spectaculaire lorsqu'on entend Christine Pedotti, merci, dire que on est complètement décalé par rapport aux médias, qu'est-ce qui va se passer à la fin. Mais il va rien se passer à la fin. Je vais dans ce sens-là. Il faut qu'on vive. C'est ce que le pape dit. Il faut rêver. Il faut prendre le temps en Église que chacun s'accommode à la présence des autres, qu'il y ait des Christine Pedotti, qu'il y ait d'autres, qu'il y ait par exemple Christophe Théobald qui s'apprête à sortir un livre, je vous le dis, c'est pour faire de la pub, je crois que c'est quelque chose comme ça, un synode qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire un concile Vatican III, mais dans la durée. Si l'Église se donne le temps, et si François, j'attends de lui que quand il fera, s'il est encore au pouvoir à ce moment-là, au pouvoir, excusez-moi, au service de l'Église, il pourra relancer et encourager les hommes et les femmes à durer dans ce processus pour que de l'histoire, d'un nouveau rapport de force à l'intérieur et de l'Église, et de la société et des sociétés ambiantes émerge une nouvelle manière d'être Église. Je ne sais pas ce que sera l'Église de demain. Ça ne sera pas simplement, d'abord vous avez dit au passage que le sacerdoce dans l'Église était un sacerdoce de soi célibataire. Vous savez bien que ce n'est pas vrai, c'est-à-dire sur le principe, vous avez toutes les églises orientales où c'est vécu et où c'est très bien vécu. Bon, je ne veux pas être plus long, mais je pense que la prise en compte de cette durée dans le processus qui commence nous permet de nous disposer à la mesure de nos forces, de notre imagination. J'ai beaucoup aimé la succession de ce que j'ai entendu de Christine Pedotti et de, je ne sais pas quel est votre nom, Père
Delors,
Père Vicaire Général, Père Delors, voilà. Parce qu'il y a deux perspectives qui se fécondent l'une l'autre, voilà. Et il faut durer là-dedans. Bon, ça suffit.
Donc un processus dans la durée
Par parenthèse, moi j'ai rêvé jusqu'en 2035, hein. Donc j'ai commencé mon rêve en 2005. C'était en 2005. Mais donc je peux continuer. Hein.
Dans le sens que vous dites, le Concile Vatican de lui-même mérite une lecture avec le relief du temps. C'est-à-dire s'il n'y a pas tout cet approfondissement suscité à partir de la fin du 19e dans tous les domaines bibliques, patristiques, liturgiques, ecclésiologiques, le Concile Vatican II n'a pas lieu. Il a lieu comme reconnaissance d'un itinéraire, comme canonisation d'une partie de l'approfondissement qui a eu lieu. Et dans ce sens-là, il est lui-même un processus du temps, contrairement à ce qu'on veut bien dire quelquefois, comme quoi ce serait une sorte de rupture appuyée sur rien, un peu arbitraire, etc.
Merci pour vos interventions, chacun, chacune. J'ai écouté ce matin justement les nouvelles sur Radio Notre-Dame, sur la mise au point qu'a fait le pape François sur les critères du prochain synode qui ne doivent pas changer. Il y a des choses qui ne doivent pas changer, donc c'est bien annoncé. Et que c'est un synode spirituel avant tout, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à l'écoute, tous, chacun et chacun.
Mettez le micro contre votre menton de manière à ce qu'on vous entende continuer.
Il faut se mettre à l'écoute, puisque c'est un synode avant tout spirituel, c'est-à-dire qu'il faut tous se mettre à l'écoute de ce qui doit changer en nous, dans nos rapports les uns avec les autres, et surtout comment annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Voilà, et la mission étant la tâche première du laïc, moi j'ai une expérience qui est due à une connaissance qui est due à l'expérience, parce que je n'ai pas passé de diplôme, mais j'ai souvent, je trouve, une connaissance due au terrain différent que j'ai rencontré. La mission, par exemple, de présence dans une église où les chrétiens qui viennent pour prier ne vous disent pas bonjour, et où beaucoup de visiteurs viennent voir les beautés de cette église, c'est vraiment un terrain de mission. On peut expliquer beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'église, sur la participation des laïcs, ainsi de suite. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est chacun et chacune, même nous, devant notre journal ou notre radio qui va nous informer, de se poser toutes les questions que vous avez invoquées les uns et les autres. Et moi, la question aussi que je me pose, c'est est-ce que la place du pape est évoquée? Lui aussi doit se poser la question de quand doit-il intervenir? Parce que, écoutez, on n'entend parler que de lui. Il a des bonnes idées, c'est certainement, il a une mission. Mais j'ai beaucoup aimé l'intervention de Mgr Aveline, qu'il a fait en direct avec le pape pendant l'Eucharistie à Marseille. J'ai trouvé que là, Mgr Aveline dit des choses qui complétaient ce qui était la France. Et c'est bien souvent dans
ces... Vous parlez avec les mains, mais il faut que vous caliez le micro.
Comment le pape a été long aussi à reconnaître les abus, je crois que c'est au Chili. Donc il n'est pas infaillible dans tout. Quelle est sa place? Comment doit-il écouter aussi les uns et les autres? Voilà. Excusez-moi.
Vous voulez réagir?
Que ce soit un processus spirituel, sans doute. Oui, un processus spirituel avec une partie liturgique même, sans doute, mais ça n'exclut pas des orientations. Mais moi, à titre personnel, je suis assez ouvert à des figures nouvelles, des responsabilités, en particulier concernant les femmes. Mais je veux dire que je n'attends pas de mesures précises, une sorte de solution évidente à l'adversité dans laquelle l'Église se trouve. Enfin, à l'adversité, pas seulement l'adversité, mais au défi que l'Église doit relever. Donc moi, je suis plutôt ouvert. Et en même temps, je me dis, est-ce que telle mesure pourrait transformer la face des choses? Je ne sais pas dire. Mais je n'y suis pas, moi.
Et s'il y a des mesures qui pourraient transformer les choses?
Je suis bien d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de magie à attendre. D'abord parce qu'il s'agit des cœurs des humains et que quand il s'agit du cœur humain, la magie, ça ne marche pas. Il reste que... ce n'est pas une obsession de parler de la question des femmes. Je veux dire, la question des femmes, c'est pour ce qui est des femmes, la moitié de l'humanité, mais c'est aussi des jeunes hommes ou moins jeunes qui aujourd'hui ne comprennent pas davantage que les femmes pourquoi il y a un monde qui sépare à ce point les hommes et les femmes en disant qu'il y a que les femmes sont non légitimes, non licites. Enfin, c'est, je veux dire, tout ça nous heurte très profondément en fait. Et je crois qu'on ne se rend pas compte de la charge de scandale que ça représente. D'une certaine façon, nous y sommes habitués dans l'Église à cette. Et puis tout d'un coup, bah non, c'est juste pas possible. Donc ça, je veux dire, les femmes, c'est une question. Et de surcroît, c'est pour ça que je rappelais qu'en 62, la société était encore unanimement masculine. Mais aujourd'hui, je sais pas vous, mais moi, quand je vois un groupe dans lequel il y a que des hommes, je dis mais où sont les femmes? Voilà, et parce qu'en fait, nous avons changé notre façon de regarder les choses. Donc cette question est très importante. La question de la démocratie, elle est importante aussi. Effectivement, je veux dire, pouvoir avoir la voix au chapitre ici et là. Moi, je vais redescendre sur le plancher vraiment des vaches, et presque le plancher normand, parce qu'en ce moment, je vis en Normandie. Je veux dire, devant les églises fermées. Mais ça me hante, les églises fermées. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de curé affectataire devant des églises désaffectées? Je joue avec les deux mots. Je dis bon sang, bonsoir. Mais comment c'est possible qu'on ait laissé ces églises fermées? Moi, dans le village dans lequel je vis en Normandie, j'ai raté la chance que j'avais d'aller voir l'église parce que c'était pour les journées du patrimoine. Elle est ouverte, là. Monsieur le maire l'ouvre. Sinon, elle n'est jamais ouverte. Jamais ouverte. Bon, c'est un bled de 280 habitants. Elle n'est jamais ouverte. J'ai des voisins qui sont là depuis 30 ans. Ils n'ont jamais mis les pieds dans l'église. Vous vous rendez compte? Diocèse du Havre. Voilà. Et ça, je veux dire, c'est pas possible. Il reste quand même bien suffisamment de chrétiens pour ouvrir ces églises, bon sang de bonsoir. C'est pas possible. Moi, ça me laisse, voilà.
Mais Christine, on peut donner la clé à un laïc, non?
Eh ben,
c'est pas tellement une question de prêtre.
Attends, la théologie des clés, c'est, hein? On est d'accord? Ouais,
je pense qu'on peut quand même.
Ouais. Je pense qu'on peut. C'est assez compliqué, la théologie des clés. Hein.
Question?
Je suis sérieuse, hein. Non, mais je veux dire, il y a 1001 cas qui me sont remontés dans lesquels le curé ne veut pas que des groupes de baptisés se réunissent dans l'église parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire, parce qu'on ne va pas pouvoir vérifier, contrôler, machiner, je ne sais pas quoi. Il y a une volonté de contrôle très très forte. Elle existe, hein, c'est pas du fantasme. Il y a plein d'endroits où c'est comme ça. Plus, et je le tiens d'un évêque, je veux dire, me disant, non mais attendez Christine, vous vous rendez pas compte. Je veux dire, s'il y a une célébration, quelque chose qui est fait, un temps de prière, de lecture de la parole de Dieu, qui est fait par des laïcs, mais après, les gens, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas la messe. Alors après, vous vous rendez compte, ils disent, eh bien, la messe de Madame Schmoll, elle est bien mieux que la messe de Monsieur le curé.
Bon. Moi, je suis très touché par cette... ou ce point d'acceptabilité. Je viens du Canada, du Québec, et là, quoi ce qu'on fait, l'Église sera toujours mal vue ou non acceptée. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est l'Église catholique, universelle, c'est pas seulement une culture, c'est pas seulement un pays ou une nation, mais ça se trouve partout. Et ce qui est acceptable ici en France et peut être acceptable au Canada aussi, mais pas forcément en Égypte ou pas forcément en autre pays. La question égalité homme-femme, c'est génial et c'est primordial ici, mais c'est d'autres valeurs qui sont vécues dans d'autres pays. Alors, comment dans nos dialogues et nos questions qu'on pose, on peut voir cette universalité de l'Église, là on a traité du gouvernement, mais est-ce qu'on pense que ce qu'on veut faire ici peut être appliqué aussi à l'Église universelle, ou notre cadre est simplement occidental ou même européen?
Je peux répondre? Alors, je vais vous dire, quand on est des chrétiens et qu'on prêche un Messie crucifié, quand on dit qu'un Dieu s'est fait faible, quand c'est tellement à rebours de toute la culture humaine, quand on a cette capacité de tenir ça, que ce qu'on croyait être la faiblesse est une force, que la vulnérabilité est un bien, on ne serait pas capable d'être prophétique sur le rôle des hommes et des femmes? S'il y a des endroits dans le monde dans lesquels l'égalité homme-femme ou les droits des personnes homosexuelles ne sont pas respectés, je veux dire, pourquoi est-ce que nous ne serions pas prophétiques? Je veux dire, nous sommes prophétiques sur des choses infiniment plus difficiles et douloureuses à avaler.
Alors, une autre question, c'est, aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, c'est la Saint-François de Borgia, qui est sans doute un illustre anonyme pour les non-jésuites, mais en tout cas, il a été général de la Compagnie de Jésus. Et dans une lettre qui lui était adressée par Saint-Ignace, voilà, il est question de savoir si est-ce qu'il va accepter une charge de cardinal, bref, c'est pas ça qui nous importe. En revanche, ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est que Ignace lui dit: après avoir prié, je sens que l'Esprit m'appelle à vous dire que il faut que vous refusiez cette charge. Et il ajoute juste après, cependant j'ai pensé et je pense encore que ce fut la volonté de Dieu que j'adopte cette position contraire en vous conférant cette dignité sans qu'il y ait la moindre contradiction avec le fait que vous puissiez l'accepter. Autrement dit, ma question c'est comment permettre l'expression d'une conflictualité qui n'entrave pas la communion, pour le dire autrement, comment tenir que l'Esprit parle parfois à partir de ce qui nous semble contradictoire?
Les jésuites, ça dégage.
Moi, quand je posais la question en disant que je trouvais que c'était... Enfin, qu'est-ce qui reste de catholique si finalement on élimine la partie le machin sacré, les pasteurs sacrés, la hiérarchie, machin, etc. Je veux dire, il reste l'art de la communion. Et quand je dis l'art, c'est pour ne pas... Je veux dire, c'est un art au sens où c'est de la poésie, la communion. C'est pas de la routine. C'est quelque chose qui justement enjambe la contradiction. Précisément, je veux dire, je m'attable avec le frère et la sœur avec laquelle je ne suis pas d'accord. Le miracle de la communion, et en particulier de la communion eucharistique, c'est ça qui m'attache au catholicisme, c'est que je m'attable avec le frère et la sœur avec lequel je suis en ferme opposition.
Je trouve que être catholique, c'est-à-dire avoir ce souci de l'unité visible de l'Église, puisqu'il s'agit de ça finalement, c'est un exercice difficile. Et pour reprendre l'exemple que vous citiez, ce qui permet la communion dans ce cas-là, c'est que les gens se parlent. Et ça me paraît un critère de la communion dans l'Église, c'est que la conversation ait lieu. C'est plus difficile quand elle n'a pas lieu. Et vous posiez tout à l'heure aussi la question de savoir comment, pratiquement, on pouvait associer les personnes de décision, ou plus spécialement les gens des milieux populaires, ce qui est aussi une question plus spécifique. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de génie à développer pour que les conversations aient lieu. Et que c'est une des manières d'exister dans des différences quand au moins elles sont formulées, quand au moins elles sont justifiées et quand elles peuvent s'enraciner dans une intelligence.
Oui.
Oui, merci. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous soulevez, que vous avez déjà soulevées, qu'on a envie de tirer des ficelles, et j'ai eu plusieurs questions, donc je ne sais pas si j'ai le droit d'en poser deux. Je vais commencer par la première. On a eu une, pour rebondir un peu sur la question de Théophile, en lien avec le sujet du ministère pastoral pour les femmes, peut-être ouvert pour les femmes. Voilà. Il y avait toute une discussion au Centre Sèvres une journée sur hommes et femmes en Église, justement sur ces sujets-là, qui était très intéressant et qui disait justement que le synode, que les issues de la grande consultation qui avait eu lieu faisaient ressortir justement l'envie, les appels et une sensation qu'il y a besoin que des femmes soient appelées, ou qu'il y a des femmes qui sont appelées, mais que c'est pas forcément... entendu, où il n'y a pas de lieu pour accueillir ça, et voilà. Et un des éléments que j'avais trouvé très intéressant était, en effet, souvent, quand on est appelé par des hommes. Enfin, moi, j'ai pas forcément eu cette occasion-là dans ma vie, mais il y en avait qui témoignaient de ça, pour travailler auprès des évêques, ou voilà. C'est des amis, c'est des frères et des sœurs qui s'appellent, voilà. Mais c'est toujours des hommes qui décident, qui discernent. Même si on est souverain de ce qu'on a dans notre fort interne avec le Seigneur, il y a un moment pour l'actionner et le rendre vivant. C'est un prêtre ou un évêque qui va dire oui, non, ou du moins je te sens appelé aussi. Donc il y a un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a, à mon sens quand même si on est tous hommes et femmes, on a tous un espace en nous pour accueillir le Seigneur et l'Esprit Saint. On est des hommes et des femmes, genre ou pas genre, on n'ouvre pas ce sujet-là, mais on a des différences. Et je trouve que ce serait intéressant qu'elles soient... Voilà, ma question, en fait, derrière, c'est comment on fait, justement, quand le serpent se mord la queue comme ça. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a pas de femme qui peut discerner qu'il est bon d'accueillir d'autres femmes pour être pasteur, pour gouverner avec d'autres, ben, c'est difficile que ça bouge. Donc, est-ce que vous avez entendu des choses qui disent que ça, c'est en chemin? Ça m'intéresserait. Est-ce que je pose la deuxième question? Ok. Non, mais l'autre sujet, c'était par rapport au modèle de gouvernance. Moi, je travaille sur la transformation des organisations publiques, privées, des grands groupes, des petits groupes, des assos, des ministères. Et en fait, il y a une recherche incroyable. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les modèles de gouvernance. C'est des modèles qui justement réfléchissent à éviter la totale horizontalité qui est l'écueil de quand on a envie de prendre les décisions ensemble, et ça c'est un marronnier, enfin c'est infini, c'est très très difficile, et la grande hiérarchie qui est très très solide, qui sans doute fait que l'Église a tenu aussi dans le temps avec autant de stabilité, et il n'y a pas tout à gommer, mais je trouve que la consultation est une ouverture à une forme justement d'écoute de la... Nous, on dit « base of pyramid » carrément dans les boîtes. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir à, justement, en étant à l'écoute de ce que chacun apporte, quelle place il peut avoir dans la prise de décision, dans un groupe? En fait, juste en étant dans un groupe, quand on décide, c'est pas forcément, il n'y a pas une seule personne qui exerce un leadership. Il y a beaucoup de leadership qui s'exprime. Voilà. Donc, à mon sens, il y a vraiment un sujet autour des ministères. Je sais que Laure Blanchon, ici, donne des cours au ministère, et on a pu bénéficier d'interventions à Magis Paris. Donc, des jeunes de mon âge entendent Laure Blanchon expliquer que les ministères s'exercent de manière bien différente en Polynésie, qu'il y a des femmes, il y a des matriarcats, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il faut que la femme prenne le pouvoir, mais ça veut dire qu'il est bien discerné que chacun a quelque chose à porter dans l'esprit, et que... Enfin, pour moi, il y a vraiment une confusion entre tous les rôles endossés par le prêtre, qui, à mon avis, est impossible. Enfin, moi, je trouve que c'est énorme. Je ne sais pas comment vous faites. J'ai des amis prêtres. J'ai la sensation qu'ils souffrent, hein, vraiment d'avoir autant de choses à gérer sans être formés sur ces sujets, notamment de gouvernance. Donc voilà, je trouverais intéressant de regarder les choses d'une manière plus à l'écoute que chacun apporte et que chacun puisse prendre le leadership, mais en appelant ensemble, en écoutant ensemble. Et je pense que l'esprit parle à tous, pas besoin d'être prêtre ou d'être religieux pour l'accueillir. Voilà, donc c'est plutôt, là c'est un axe. Est-ce qu'aussi vous avez entendu parler de réflexion autour des ministères et du coup de l'ouverture à certains ministères à des femmes ou à la création de ministères pour des femmes, voilà. Et aux modèles de gouvernance qui sont des modèles de gouvernance nouveaux qui existent, qui sont parfois incroyables et extrêmement performants. Voilà.
On nous interpelle souvent dans le sens que vous dites, à savoir pourquoi est-ce que vous profitez pas de la réflexion sur d'autres modèles de gouvernance, mais reconnaissez qu'ils sont pas forcément si anciens. Et moi, il me semble que beaucoup de choses dans l'Église se passent par capillarité. C'est-à-dire, non pas par des réformes initiales, mais parce que justement, la société évolue. Et le grand exemple, pour ne pas parler de la question de la pédocriminalité dans l'Église, c'est l'argent. La gestion de l'argent a été normalisée dans l'Église catholique en France du fait du plan comptable européen et de sa généralisation et de l'obligation des critères de rendre des comptes. Et ça s'est fait dans l'Église un peu sans bruit, parce qu'on a dit, non, c'est bien, on va faire comme ça. Et je pense que en matière de gouvernance, parce que les générations succèdent et parce que les générations qui arrivent ont aussi d'autres expériences d'école de commerce ou autres, se diffuseront aussi dans l'Église. Moi, je pense qu'il y a en réalité pas mal de latitude, mais que cette latitude est peu mise en œuvre. Voilà. Quant à la première question, c'est symboliquement que les hommes appellent, que les prêtres ou les évêques appellent. Dans beaucoup de cas, dans une paroisse, c'est des chrétiens avec qui on est en relation qui appellent, qui disent « Moi, je connais un tel, on pourrait lui demander. » Et nous, on ne les connaît même pas. On dit « Bah, vas-y. » Et donc, c'est les femmes qui appellent. Quelle décision, par exemple?
Je veux dire, si vous avez vraiment envie d'avoir des jeunes qui reviennent dans les églises, si vous, enfin, moi, pour moi, tout est signe qu'il est temps de changer des choses qui sont structurelles et que, pour le faire, il faut introduire justement dans les gouvernances, dans les lieux de prise de décision, la diversité. Comme vous le disiez sur la diversité, ça peut être pas que sexuel et genre, ça peut être aussi culturel, ça peut être de niveaux, de milieux socio-professionnels différents. Mon Dieu, on en a tellement besoin. Et vous disiez que ça se faisait par capillarité. Moi, je peux vous le dire, les entreprises pionnières, elles ont changé leur gouvernance. Déjà, ça y est, c'est fait. Et ça fait des années. Il y en a qui ont prouvé la solidité de modèle, justement, plus type... Alors, sociocratie, holacratie, c'est des grands trucs, mais il y a plein de choses qui existent. Je pense que, et en plus de ça, enfin, c'est Christine qui a dit, mais si on se posait la question, est-ce que l'Église a quelque chose à dire sur les enjeux de ce temps, mais sur certains aspects, les laïcs au sens non baptisé sont en avance, ont aussi entendu le souffle de l'Esprit avec leurs oreilles, leur cœur. Et je trouve que ça ne veut pas dire que l'Église doit se fondre. Je pense que par les virages qu'ils sont en train de prendre, moi je peux le voir, c'est super à la mode, la méditation, c'est super à la mode, machin. Tout ce qui se passe avec le changement climatique et les enjeux sociaux que ça soulève, qui sont vraiment d'une très grande gravité, j'ose le mot, on voit notre vie défiler. Hein. On est sur le sujet des conditions de vie sur Terre. Pour moi, l'Église, alors le pape produit des écrits de documents. Là, d'ailleurs, il y a un autre livre, la suite de Laudato Si, qui va sortir. Ben. Mais au-delà de ça, il y a comment on l'incarne dans notre organisation, ce message que l'espérance dépasse la mort. Et pour moi, ça passe par ça d'abord. On peut pas porter un message comme ça et être tout coincé et avoir peur que ça change.
Buvez du petit lait.
Oui, je dois dire que je suis assez d'accord. Je trouve que l'objection sur le fait que ce sont des femmes qui sont toujours appelées par des hommes, c'est vraiment la signature d'un monde masculiniste absolu. L'Église catholique, c'est le masculinisme absolu. Et c'est assez compliqué. Moi, on m'a souvent posé la question, mais en fait, vous aviez envie d'être prêtre ? Moi, jamais. Mais jamais, parce que c'est une place d'homme. Parce qu'aujourd'hui, c'est une figure d'homme. Je veux dire, si les prêtres sont des femmes, ça sera autrement, ça sera autre chose. Moi, il y a longtemps que je plaide pour qu'on invente des ministères et qu'on étende. En fait, voilà, je pense que ça serait une très bonne idée. Et puis, je voudrais quand même dire une petite chose, ça c'est une véritable expérience, c'est que parfois, on franchit la frontière et les choses changent. Moi, je suis assez souvent invitée en Suisse, dans des paroisses catholiques, et on m'invite pour prêcher. Et j'y ai, par exemple, prêché le Triduum Pascal. Dans des paroisses archi-catholiques, hein, pas... voilà. Des vraies paroisses catholiques, normales, dans lesquelles on ne me chipote rien. C'est-à-dire que si je prêche, c'est moi qui proclame l'Évangile. C'est moi qui le fais acclamer. Dans un certain nombre d'endroits, c'est arrivé. Je veux dire, quand j'arrive, le curé qui m'a invité me dit « Ici, on a coutume de demander aux prédicateurs ou aux prédicatrices de faire la prédication en aube. Ça vous dérange ?» Moi, je suis baptisée, donc ça ne me dérange pas. Alors c'est assez amusant parce que je me souviens d'une fois où le sacristain m'a regardé de pied à la tête, il a dit 145. Il a sorti l'aube, elle m'allait impeccable, je marchais pas dessus, donc bon coup d'œil. Et j'ai célébré, en fait j'ai concélébré. C'est-à-dire que, à côté du prêtre, je suis montée en procession jusqu'à l'autel. On m'a pas chipoté ma place. Évidemment, je n'ai pas célébré, je n'ai pas concélébré l'Eucharistie. Mais voilà, j'étais assise. C'est très commun. C'est tellement commun que les Suisses se sont très étonnés que ça ne se passe pas de l'autre côté de la frontière. Ah bon, faites pas ça chez vous ? Non, non. Non, non, j'ai dit, mais chez moi, quand on me demande de prêcher, ça m'arrive. Alors le curé, il fait des contorsions en disant, alors j'ai demandé à Madame Pelletti de faire un commentaire de l'Évangile, c'est pas une prédication. Il a peur, évidemment, qu'on envoie des lettres de dénonciation. Voilà, en fait, je fais une prédication, hein, il n'y a pas de doute. Mais bon, voilà. Donc, en fait, il y a des choses qui peuvent se passer. En Suisse, il y a aussi des curés qui sont des femmes. C'est-à-dire qu'elles ont la charge de la paroisse. C'est un système relativement bancal, hein, parce que pour célébrer les sacrements, ils ont quand même besoin d'un prêtre. Alors, c'est un peu bizarre de faire venir quelqu'un juste pour faire les gestes sacrés. Moi, je trouve ça assez choquant. Et on voit bien, c'est intéressant. Parce qu'on voit bien à ce moment-là que le système est bancal et que ça ne marche pas. Et que quand on préside un truc, il faut présider, effectivement. Donc, mais cela dit, c'est des expériences intéressantes et ça prouve qu'on n'est pas complètement recroquevillé, on peut changer des choses. Et je me dis que quand il y a une femme qui est à l'autel, à côté du prêtre, et que c'est elle qui fait la prédication, eh bien ça change un peu le rapport homme-femme, quand même. C'est un premier signe et que ça vaut le coup.
Non, moi j'entends ce que vous dites sur des enjeux importants pour aujourd'hui, mais je vois pas comment le fait d'inventer des ministères féminins résoudrait le sujet. Je pense que le sujet resterait entier. Qu'il y ait des enjeux autour des ministères féminins, je le conçois, mais que ça soit corrélé, si je le voyais, je serais content, mais je le vois pas. Je peux pas dire autre chose.
Merci. Il est 9h moins le quart, donc merci pour votre participation, vos nombreuses questions. Merci à nos intervenants, merci aux étudiants. Étienne, est-ce que tu veux présenter le prochain mardi d'études publiques qui a lieu début novembre et qui portera autour des migrants ?